Bonjour cher Emmanuel et bonjour à tous. Au programme des chemins du vendredi aujourd'hui, un auteur dont on parle peu, à ce micro en tout cas, un écrivain beaucoup étudié au lycée puis rangé tout en haut des bibliothèques, un romancier classique de manière incontestable mais peu lu, car il fait peur peut-être, trop de livres à lire de lui. Mon invité aujourd'hui les a tous lus et il y a vu une philosophie à l'œuvre, une philosophie de la vie. Bonjour Arnaud François.
Bonjour Adèle Van Rett.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
Merci.
Zola, qui était un beau décorateur de théâtre, s'en tirait en brossant des toiles plus ou moins précises. Il suggérait très bien l'illusion du mouvement et de la vie. Ses héros étaient dénués d'âme, régis tout bonnement par des impulsions et des instincts, ce qui simplifiait le travail de l'analyse. Il remuait, accomplissait quelques actes sommaires, peuplait d'assez franches silhouettes des décors qui devenaient les personnages principaux de ses drames. Il célébrait de la sorte les halles, les magasins de nouveautés, les chemins de fer, les mines et les êtres humains égarés dans ces milieux n'y jouaient plus que le rôle d'utilité et de figurant. Mais Zola était Zola, c'est-à-dire un artiste un peu massif, mais doué de puissants poumons et de gros poings. Nous autres, moins rablés et préoccupés d'un art plus subtil et plus vrai, nous devions nous demander si le naturalisme n'aboutissait pas à une impasse et si nous n'allions pas bientôt nous heurter contre le mur du fond. La philosophie d'Émile Zola, Faire de la vie, aux éditions Hermann, c'est le titre de votre livre, Arnaud François.
Oui.
Émile Zola fait partie de ces auteurs qu'on pense connaître. Tout le monde connaît son nom, tout le monde en France en tout cas, qui a fait des études, connaît son nom. On pense l'avoir lu, on ne l'a pas toujours lu. Et pourtant de lui, on ne sait pas grand-chose, car on l'a rarement, en fait, vraiment lu. Une manière peut-être d'en dresser le portrait, eh bien, c'est de suivre ce que dit Huysmans, dont je viens de lire un texte qui date de 1903. Est-ce que vous suivez cette présentation de Zola comme étant cet artiste un peu massif, mais doué de puissants poumons et de gros poings?
C'est un éloge paradoxal, c'est très mi figue mi raisin ce que dit Huysmans à propos de Zola. Huysmans a commencé avec Zola et il s'en est détaché assez rapidement. Les puissants poumons, les gros poings, c'est très juste, ça ressemble assez aux descriptions que Zola donnait lui-même de Michel-Ange par opposition à Botticelli, et c'était pour s'y retrouver, pour retrouver son propre art poétique, il définissait comme ça l'art de Michel-Ange. Et puis les puissants poumons, c'est aussi le souffle épique. On a beaucoup fait remarquer que Germinal était une épopée, c'est très juste. Huysmans et Zola, cependant, il y a beaucoup de choses déjà qui se disent ici, et en particulier sur notre présent. C'est un peu les deux options littéraires et politiques qui sont vite dessinées. Zola en avait lui-même conscience. D'un côté, un naturalisme matérialiste et politiquement de gauche, et puis de l'autre côté, Huysmans, la banqueroute de la science et le retour du mysticisme, de l'âme. Quand il dit que chez Zola, il n'y a pas d'âme, ça veut dire beaucoup. Hein, mysticisme, spiritualisme sont des courants qui trouvaient dans un certain symbolisme leur expression littéraire. Notre présent lui-même se joue un petit peu dans cette dualité. Pensez par exemple au rôle que Michel Houellebecq fait jouer à Huysmans dans son roman Soumission. Hein, Houellebecq fait revenir Huysmans. On peut essayer de faire revenir Zola de notre côté.
C'est ce que vous avez tenté de faire peut-être dans ce livre, et vous le dites très bien, faire revenir Zola. Zola n'est jamais parti, il est toujours là, et pourtant c'est comme s'il existait sous forme de fantôme.
Sous forme de fantôme. Il a une situation qui est elle-même extrêmement ambivalente. Vous le disiez, il est très étudié au lycée, et pour beaucoup de gens, c'est précisément un auteur qui se réduit à des souvenirs de lycée. On lit Germinal, on lit parfois L'Assommoir encore. Et puis on connaît un petit peu J'accuse aussi. Certains politiques mentionnent volontiers l'anniversaire de J'accuse. C'est le 13 janvier qu'on fêtera le 120e anniversaire même de cette tribune.
Donc le pamphlet que Zola publie au moment de l'affaire Dreyfus.
Dans le journal de Clémenceau, effectivement.
L'Aurore.
L'Aurore. pour s'en prendre directement au président de la République et au risque de se mettre lui-même en situation d'être condamné pour diffamation. Il prend un parti, le président de la République, pour rouvrir le dossier Dreyfus qui avait été soigneusement fermé, verrouillé, cadenassé par l'état-major. Donc Zola se réduit à peu de choses en réalité. Hein. Il se réduit à ce qu'on vient de dénoncer, des souvenirs de lycée et puis le j'accuse. Je pense qu'on peut y trouver beaucoup plus. Je pense qu'on peut trouver une philosophie et puis peut-être même une inspiration politique pour le présent.
Vous étiez venu à ce micro parler de Bergson, qui est votre casquette principale, et on vous redécouvre aujourd'hui avec Émile Zola. Qu'est-ce qui a opéré cette transition en vous? Est-ce que finalement c'est la continuation de votre travail précédent?
Alors, on peut parler un petit peu de moi. L'essentiel, c'est de parler de Zola. Mais enfin, disons que le fil conducteur, ça reste la question de la vie. J'ai beaucoup travaillé sur Bergson, sur Nietzsche, vie et volonté, volonté de puissance. J'ai parlé de vie et santé ensuite dans un essai que je vous avais communiqué. Et puis Zola, eh bien, j'y vois l'occasion de développer dans une direction plus politique encore avec vie et travail. C'est la question du travail qui vient s'aboucher à celle de la vie. Et c'est ça le rôle que joue Zola pour moi. Et de fait, bon, c'est davantage une superposition de couches qui restent en continuité les unes avec les autres qu'une transition ou une rupture, puisque ces jours-ci, enfin, en réalité même hier, paraît annoté par mes soins, je me permets de faire un petit peu de publicité, le cours de Bergson au Collège de France, Histoire des théories de la mémoire, 1903-1904, voilà, tout à fait contemporain, à quelques années près de Zola. C'est un cours qui a été professé un an après le décès de Zola.
En 1902, donc.
Voilà, c'est un contexte littéraire et philosophique qui est tout à fait similaire, sauf qu'on peut le voir des deux côtés. C'est ça qui est tout à fait intéressant, stupéfiant, fascinant quand on s'intéresse à Zola après s'être beaucoup intéressé à Bergson, c'est qu'on a l'impression de voir exactement les mêmes problèmes, mais de l'autre côté de la vitre, un petit peu comme une vitre sans teint. Et pendant longtemps, mon travail, c'était de forger des arguments pour défendre les positions spiritualiste de Bergson, affirmant la réalité de l'esprit à côté de celle de la matière. Maintenant, j'ai affaire à un auteur qui forge des arguments pour démontrer exactement le contraire. Il y a des thématiques qui sont les mêmes, la limite de la science, éventuellement la banqueroute de la science, mais qui ont une signification, une évaluation tout à fait opposée selon qu'on s'adresse à Zola et à Bergson.
Quand on parle de Zola, on pense au Rougon-Macquart, la famille qu'il imagine et dont il imagine les péripéties au cours c'est une vingtaine de romans, je crois, donc de génération en génération. Quelques titres viennent à l'esprit, que ce soit Germinal, L'Assommoir, parfois Bonheur des Dames, mais le terme à partir duquel vous proposez votre philosophie de Zola, qui serait en fait la philosophie de Zola, est celui de vie. Or, on dit rarement, Zola est peut-être naturaliste, c'est ce que disait Huysmans, faut-il définir ce qu'on entend par naturalisme, mais on dit rarement que c'est un écrivain de la vie. Qu'est-ce que vous entendez par la vie chez Zola?
Oui, c'est une thématique qui apparaît elle-même très nettement et très explicitement chez Zola, mais alors chez un Zola assez tardif, c'est-à-dire qu'il faut s'adresser au dernier roman des Rougon-Macquart, Le Docteur Pascal, paru en 1893, et puis il faut s'adresser à deux autres massifs romanesques, deux autres cycles, comme dit souvent la critique, qui sont très délaissés aujourd'hui, sinon totalement délaissés, à savoir Les Trois Villes et Les Quatre Évangiles. Voilà, c'est les derniers romans que Zola ait composés. Et le fil conducteur de la vie est tout à fait perceptible, extrêmement structurant pour ces derniers cycles romanesques. Zola pense effectivement la nature en termes de vie, d'où une ambiguïté possible. S'agit-il sur le plan des doctrines philosophiques d'un vitalisme ou d'un spiritualisme qui viendrait rompre avec le matérialisme jusque-là toujours professé par Zola? En réalité non, puisque lorsqu'il parle de vie, il parle d'une vie dont il dit lui-même qu'elle se réduit à des atomes, à des processus chimiques, mais il l'appelle tout de même vie. Donc on a ici un concept paradoxal de vie, et c'est ça le boulot du philosophe. Quand on est philosophe, on est attiré par les concepts paradoxaux. On a ici affaire à une vie qui est vie, qu'il faut appeler vie, et qui en même temps se réduit à des processus physico-chimiques.
Mais vous distinguez trois sens différents de la vie chez Zola. Voilà. Le sens purement biologique, le sens de vie comme une existence, c'est ma vie, mon existence, et un sens, disons, plus métaphorique qui serait celui de la vitalité à l'œuvre dans tous les romans de Zola.
Alors on est ici dans la deuxième étape du travail philosophique, non plus repérer les concepts paradoxaux, mais commencer à les analyser pour voir un petit peu ce qu'ils signifient. Et on s'aperçoit que Zola, en réalité, distingue, comme vous le disiez, trois concepts. Il faut en tout cas solliciter un peu les textes pour arriver à cette distinction claire. Distinction d'abord entre ce que Hannah Arendt, par exemple, appelle zoé et bios, reprenant les termes grecs. La zoologie, c'est pas la même chose que la biographie. Zoologie qui nous parle de ce qui est commun aux plantes, aux animaux, aux hommes également, mais une biographie, songez aux vies parallèles de Plutarque, ça ne vaut que pour des individus humains. Donc on a ces deux sens qu'on retrouve chez Zola. Mais ce qui est intéressant, ce qui est nouveau, c'est de découvrir un troisième sens qui est, je crois, assez irréductible aux deux premiers. C'est quand on dit, par exemple, d'une rue qu'elle est vivante. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'elle est animée, qu'il s'y trouve beaucoup de gens. Ça ne veut pas dire qu'il y ait beaucoup d'animaux, beaucoup de plantes. Ça ne veut pas dire non plus qu'on puisse en retracer la biographie. Et c'est cependant un sens qui est tout à fait intuitif, qui nous paraît tout à fait clair. Eh ben, je dirais, c'est une de mes découvertes, je pense pouvoir l'affirmer de cette façon un petit peu péremptoire, à propos du corpus de Zola, que c'est ce sens-là, le troisième, qui est le principal pour lui, et les deux autres sens en dérivent par un jeu de métaphores. On dit souvent qu'il n'y a pas de métaphore dans le naturalisme. En réalité, il y a un travail très sérieux, mais nouveau, sur la métaphore qui est effectuée par Zola.
Alors avant d'en venir à la définition du naturalisme par Zola lui-même, d'ailleurs on va lui laisser la parole, si j'ose dire, alors qu'il compare son travail à celui de Balzac. C'est passionnant, mais d'abord, on va prendre un cas particulier pour bien vous comprendre. Donc, cette vitalité à l'œuvre dans les romans de Zola, on la trouve notamment dans Le Ventre de Paris, 1873, qui est le troisième volume des Rougon-Macquart. On la trouve aussi dans Peau Bouille, un ouvrage qu'on connaît beaucoup moins, qui date de 1882, dont voici un extrait qui retrace une forme de vitalité qu'on va définir ensemble, mais qui est très perceptible à l'oreille.
Voulez-vous venir dans mon bureau, que nous voyons un peu les commandes de la semaine ?
À vos ordres. Personne ne nous dérangera.
Voici l'état de ce qui nous reste en magasin. Si nous avions plus de place.
Ça dépend de vous.
De moi ?
Mais j'ai depuis quelque temps une idée, mais je n'osais pas vous en parler.
Dites toujours.
La maison voisine est à vendre. Achetez-la, donnez congé au locataire de l'immeuble, édifiez un magasin de 4 étages et vous tuerez le petit commerce.
Ce n'est pas si simple.
Au lieu de vendre peu, mais cher, renversez la formule.
Vendre beaucoup, mais bon marché.
La maison de soirée de M. Vabre vous fait concurrence. Créez un rayon spécial. Et avant 5 ans, vous le mettez en faillite.
Mais la maison Vabre est vieille et solide.
Fini les vieilles maisons. Faut précipiter leur agonie.
Précipiter leur agonie. Quelle cruauté.
Oh, nous sommes jeunes. Pas de pitié.
Vous avez surtout les dents longues.
Et je m'en flatte. Les boutiques sombres, écrasées sous des plafonds enfumés, où l'on vend dans les ténèbres d'obscures marchandises, ont fait leur temps. Nous devons préparer le 20e siècle.
Vous avez de bons yeux. Vous voyez grand et loin.
Élevons une cité dans la ville, un palais de la femme. Que toutes celles qui entrent ici, les mains vides et le porte-monnaie plein.
En sorte les mains pleines et le porte-monnaie vide. Oui, vous me l'avez déjà dit.
Parfaitement. Et pour cela, il faut les éblouir, les griser de lumière, les saouler de marchandises, afin que, affolée, perdant la tête, elles succombent à la tentation.
Quelle éloquence! Vous êtes le poète lyrique de la bonne esprit.
Ah, les femmes, croyez-moi, c'est mon rayon.
Je commence à le craindre.
Alors Émile Zola, interprété par Gérard Philippe et Daniel Darieux, c'était en 1957 dans l'adaptation du roman réalisé par Julien Duvivier, avec cette phrase géniale, hein, « Nous devons préparer le XXe siècle ». On sent toute l'ambition vitale de ce jeune homme, Octave Mouret, qui a une idée qu'il a d'ordre, disons, économique. Il sait qu'il peut ouvrir un magasin pour faire prospérer, non seulement financièrement, sa propre existence, mais il y a autre chose. Il y a l'envie ici de mordre quasiment l'existence qui est très perceptible dans cet extrait, François.
Oui, oui. Et ce sera ressaisi à la fin du cycle par Zola dans Le Docteur Pascal, où on trouvera en quelque sorte l'explication ou le commentaire de l'arbre généalogique des Rougon-Macquart. Et Pascal, le médecin physiologiste qui commentera cet arbre généalogique après l'avoir dressé, expliquera que Octave Mouret relève du même type d'hérédité que son oncle Eugène Rougon, qui a conquis Paris dans la foulée du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. et qui s'est élevé jusqu'à un poste ministériel. Chez les deux, on trouve effectivement cet appétit de conquérant, hein, conquérir Paris par le commerce pour l'un, conquérir Paris par la politique pour l'autre. Et on voit d'ailleurs, je le dis par parenthèse, commerce et politique, on a ici deux régions du pouvoir qui ont été parcourues et par Balzac et par Zola après lui. Voilà, je ferme la parenthèse.
Ça signifie que Zola n'est pas que l'écrivain, disons, désabusé, enfin, d'une France pauvre, malheureuse, qui n'arrive pas à s'en sortir. On pense à L'Assommoir, notamment, qui décrit vraiment la déchéance d'individus qui, pris par une forme de paresse et d'inertie et de grande pauvreté, ne relève jamais la tête. Là, c'est vraiment un autre Zola. Cette vitalité dont vous parlez, il faut la prendre au sens fort. C'est quasiment, ça n'est pas que métaphorique, dites-vous.
Tout à fait, tout à fait. Zola n'est pas que cet écrivain désabusé. Zola était un individu qui souffrait lui-même de ce qu'il appelait neurasthénie, de ce qu'on appelait à l'époque neurasthénie, de ce qu'on appellerait aujourd'hui plutôt apathie. Difficulté à travailler le matin. Et il expliquait lui-même qu'en réalité, ça ne devait pas être son dernier mot. Il l'expliquait de plus en plus nettement au fur et à mesure qu'il avançait dans sa carrière. Et les derniers mots de Zola étaient des mots d'optimisme et, comme il le disait lui-même, de confiance en la vie. C'est la conclusion du docteur Pascal et ça deviendra véritablement le leitmotiv des deux derniers cycles, des Trois Villes et des Quatre Évangiles, dont je rappelle les titres et vous allez voir qu'ils sont tout sauf désabusés, fécondité, travail, vérité et justice. Alors sur Octave Mouret, bon, c'est une figure elle-même assez ambivalente, assez
donc ambiguë, c'est un Rougon-Macquart. Hein.
Alors les Mouret sont une branche de la famille. Le romancier expérimental expérimente. Il se dit qu'est-ce qui se passe quand on mélange des Rougon et des Macquart? Eh ben ça donne les Mouret, voilà. Et on a l'abbé Mouret par exemple, Serge Mouret. On a Octave Mouret. Donc c'est à la fois un Rougon et un Macquart, si vous voulez. Et Octave est très très ambigu. Hein. C'est la vitalité, mais une vitalité qui est tout de même la vitalité de la rapine, de l'ambition sordide, du mensonge. Ça n'est pas une figure en ce sens-là qui serait comparable à ce que sera Pascal, par exemple, ou à ce que sera Clotilde, hein, dans le tout dernier roman, donc qui représente une vitalité qui est également don, abandon de soi, perpétuation de l'œuvre ou de l'idéal.
Balzac dit que l'idée de sa comédie lui est venue d'une comparaison entre l'humanité et l'animalité. Un type unique, transformé par les milieux. Comme il y a des lions, des chiens, des loups, il y a des artistes, des administrateurs, des avocats, etc. Mais Balzac fait remarquer que sa zoologie humaine devait être plus compliquée, devait avoir une triple forme, les hommes, les femmes et les choses. L'idée de réunir tous ses romans par la réapparition des personnages lui vint. Il veut réaliser ce qui manque aux histoires des peuples anciens, l'histoire des mœurs, peintre des types, conteur des drames, archéologue du mobilier, nomenclateur des professions, enregistreur du bien et du mal. Ainsi dépeinte, il voulait encore que la société portât en elle la raison de son mouvement. Un écrivain doit avoir en morale et en religion et en politique une idée arrêtée. Il doit avoir une décision sur les affaires des hommes. Mon œuvre à moi sera tout autre chose. Le cadre en sera plus restreint. Je ne veux pas peindre la société contemporaine, mais une seule famille, en montrant le jeu de la race modifiée par les milieux. Si j'accepte un cadre historique, c'est uniquement pour avoir un milieu qui réagisse. De même, le métier, le lieu de résidence sont des milieux. Ma grande affaire est d'être purement naturaliste, purement physiologiste. Au lieu d'avoir des principes, la royauté, le catholicisme, j'aurai des lois, l'hérédité, l'énéité. Je ne veux pas, comme Balzac, avoir une décision sur les affaires des hommes, être politique, philosophe, moraliste. Je me contenterai d'être savant, de dire ce qui est en cherchant les raisons intimes. Point de conclusion d'ailleurs, un simple exposé des faits d'une famille en montrant le mécanisme intérieur qui l'a fait agir. J'accepte même l'exception. Écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, la philosophie d'Émile Zola. C'est le titre du livre dont nous parlons aujourd'hui. Son auteur Arnaud François est avec nous en studio pour évoquer cet ouvrage et donc la philosophie d'Émile Zola. Même si dans le texte que je viens de lire, qui vient de Différence entre Balzac et moi, 1869, écrit donc par Zola, celui-ci se défend d'être philosophe. Mais c'est le texte le plus clair qu'on a trouvé sur la définition du naturalisme. En fait, il faut laisser la parole à Zola lui-même. C'est lui qui explique le mieux sa méthode, Arnaud François.
Ce type de texte, ça fait beaucoup de bien aujourd'hui de les entendre, parce qu'on a ici affaire véritablement à un auteur qui non seulement s'est inspiré de Balzac, mais s'est aussi inspiré de Taine, avec les déclarations célèbres de Taine, disant que...
Hippolyte Taine,
philosophe et historien de la fin du 19e siècle, qui comparait la vertu avec un morceau de sucre et qui disait qu'on pouvait faire de la vertu chimiquement, comme on faisait du sucre, comme le sucre lui-même se définissait d'une façon chimique, on a affaire véritablement à un franc et sain matérialisme affiché, comme on n'en a plus aujourd'hui.
Décomplexé,
on pourrait-on dire avec un autre vocabulaire. Et dans une certaine mesure, ça permet de jeter un petit peu d'eau froide sur beaucoup de spéculations contemporaines sur le plan aussi bien scientifique que politique et moral. Donc ça, c'est un des intérêts effectivement de Zola. Et cependant, quand on le regarde d'un petit peu plus près, on s'aperçoit que cette franchise, cette sincérité dans le matérialisme n'est pas du tout l'obstacle à la complexité et à la nuance de la pensée. Parce qu'effectivement, Zola construit ses personnages à partir de deux principes fondamentaux qui sont le milieu et l'hérédité. Il le dit souvent. Il faut voir qu'il ajoute un troisième principe de plus en plus. Il faut lire Vérité, par exemple, pour cela, qui est un des tout derniers romans de Zola. En réalité, c'est le dernier roman qui soit paru. Il est paru en 1903 de façon posthume, mais il avait été achevé par son auteur. Troisième principe qui s'y ajoute, c'est l'éducation. Donc, vous voyez, on brise quand même un petit peu la rigidité mécanique de ce double principe du milieu et de l'hérédité. Et puis, dans ses lois de l'hérédité, quand on regarde de près ce qu'il entend par là, Zola prend lui-même une position qui est assez atypique au sein des discussions de son époque, puisqu'il croit à l'innéité, c'est-à-dire il croit que la différence absolue puisse surgir. Le descendant n'est pas seulement la reproduction ou la combinaison de ce qu'on trouvait chez les deux parents. Le descendant peut aussi lui-même refondre d'une manière parfaitement inédite, originale, ce qui était pourtant déjà présent chez les deux parents. Ça, il y tient beaucoup.
C'est l'irruption de la nouveauté.
C'est l'irruption de la nouveauté.
On sort du déterminisme.
On sort de la répétition, en tout cas. Voilà, on sort du déterminisme, on sort de la répétition, pour le formuler en termes de temps. C'est quelque chose qui le distingue de beaucoup des savants de son époque. C'est quelque chose à quoi il tient beaucoup et il essaye de donner des exemples dans son œuvre de ses personnages. On peut penser à Angélique dans Le Rêve, on peut penser à Hélène dans Une page d'amour. Il faut ajouter que c'est le tout dernier mot de l'arbre généalogique des Rougon-Macquart écrit par Zola en 1893, l'enfant de Pascal et Clotilde. Quel sera-t-il ? Et ça finit par un point d'interrogation parce qu'il y a l'hérédité, et il y a, pardon, l'inéité. Excusez-moi, c'est là qu'il fallait pas faire le lapsus. Il y a l'inéité. On ne peut pas savoir quel il sera. Il y a un avenir.
Et cet enfant est né d'un inceste, surtout.
D'un inceste qui est en réalité, bon, évidemment, sur un plan légal et matrimonial, pourrait-on dire, en regardant l'arbre généalogique, il s'agit d'un inceste. C'est un oncle avec sa nièce. Zola insiste relativement peu sur cette dimension. C'est une très belle histoire d'amour, très, très touchante. C'est un des romans de Zola qui accepte le mieux ce qualificatif d'émouvant, peut-être.
On va entendre un extrait de ce texte, donc le docteur Pascal, 1893. C'est un extrait très émouvant parce qu'en effet, ce docteur Pascal s'apprête à dévoiler à sa nièce, Clotilde, le résultat de ses recherches, à savoir l'arbre généalogique des Rougon-Macquart. C'est donc le dernier livre de la série. Et Zola considère ce texte comme étant le résumé, la conclusion de toute son œuvre. Écoutez donc ces lignes interprétées par Chantal Brunner et Georges Clès.
Il en avait la volonté. Il dirait tout. Puisqu'il faut tout dire pour tout guérir. N'était-ce pas l'évolution fatale, l'argument suprême, que l'histoire des êtres qui les touchaient de si près? La vie était telle et il fallait la vivre. Sans doute elle en sortirait trempée, pleine de tolérance et de courage. Elle obéit. Ces dossiers pourtant, dont sa grand-mère parlait avec tant de colère, l'effrayaient un peu. Tandis qu'une curiosité s'éveillait, grandissait en elle. D'ailleurs, si domptée qu'elle fût par l'autorité virile qui venait de l'étreindre et de la briser, elle se réservait. Ne pouvait-elle donc l'écouter, lire avec lui? Ne gardait-elle pas le droit de se refuser ou de se donner ensuite? Elle attendait.
Voyons, veux-tu?
Oui, maître, je veux.
D'abord, ce fut l'arbre généalogique des Rougon-Macquart qui lui montra. Il ne le serrait pas d'ordinaire dans l'armoire, il le gardait dans le secrétaire de sa chambre, où il l'avait pris en allant chercher les candélabres. Depuis plus de 20 années, il le tenait au courant, inscrivant les naissances et les morts, les mariages, les faits de famille importants, distribuant en notes brèves les cas, d'après sa théorie de l'hérédité. C'était une grande feuille de papier jaunie aux plis coupés par l'usure, sur laquelle s'élevait, dessiné d'un trait fort, un arbre symbolique, dont les branches étalées, subdivisées, alignaient 5 rangées de larges feuilles. Et chaque feuille portait un nom, contenait d'une écriture fine une biographie, un cas héréditaire. Une joie de savant s'était emparée du docteur devant cette œuvre de 20 années où se trouvaient appliquées si nettement et si complètement les lois de l'hérédité fixées par lui. « Regarde donc, fillette, tu en sais assez long. Tu as recopié assez de mes manuscrits pour comprendre. »
Arnaud François, on sent le plaisir de Zola dans cette page de décrire l'arbre généalogique comme si c'était un arbre réel avec des branches et des feuilles. Et même, on voit presque une identification entre Zola et Pascal, non?
Oui, c'est un trait méthodologique ou poétique, au sens de la poétique, que Zola partage un petit peu avec Proust. C'est qu'on a ce moment de diplopie, en réalité, entre l'auteur et le narrateur. Sauf que ici,
la diplopie.
Quand on voit deux points à la fois en appuyant sur le globe oculaire, voilà. On peut dire que le regard louche un petit peu. On voit deux objets l'un à côté de l'autre alors qu'il n'y en a qu'un. Donc ici, ce qui est simplement auteur devient aussi narrateur. Et plus précisément, dans le cas de Zola, on a affaire à un auteur qui s'inclut lui-même dans le roman, qui s'introduit lui-même dans le roman sous la forme de ce personnage qui est Pascal. Et lorsque Pascal écrit pendant 20 ans, rédige pendant 20 ans des notes, de petites biographies sur les différents membres de la famille Rougon-Macquart, en réalité, c'est exactement ce qu'a fait Zola lui-même pendant 20 ans au moment où il écrit ça, 1871, 1893, voilà, les deux décennies sont là. Et au moment où cet arbre généalogique risque de disparaître, brûlé par la fougue vengeresse de Félicité Rougon, qui ne veut pas qu'un jour soit diffusé ces honteux secrets de famille, eh bien, nous-mêmes, lecteurs du docteur Pascal, on tremble, parce que si jamais cet arbre était brûlé, si jamais ces notes étaient brûlées, ça signifierait que l'on ne pourrait pas être en train de lire les 20 romans que l'on a entre les mains. Voilà, donc c'est effectivement ce repliement de l'auteur sur son personnage qui est caractéristique ici. Mais c'est un très beau texte. Il y a beaucoup, beaucoup à dire sur ce texte, sur le plan philosophique, en tout cas.
Dites-nous.
Bah écoutez, il faut tout dire pour tout guérir, hein, le texte commence par là, tout dire, il faut tout dire, c'est l'art poétique de Zola, hein, et c'est un des mots d'ordre du naturalisme. Et puis, la vie était telle et il fallait la vivre.
Ça c'est une très belle phrase, la vie était telle,
voilà.
Et il fallait la vivre.
C'est, je crois, le...
Ce n'est même pas de la résignation, en
non,
fait.
Non, alors hein, voilà, précisément, ça n'est pas de la résignation, et c'est la formule, ou c'est une des grandes formules par lesquelles Zola parvient à dialectiser ce qu'on appelait tout à l'heure son pessimisme ou son regard désabusé à l'égard des souffrances qui sont essentiellement constitutives de l'existence, et puis la volonté farouche de ne pas s'en tenir là et d'affirmer quand même la vie. Donc on trouve cette formule qui est relayée par d'autres, c'est souvent il faut vivre quand même, hein, vivre malgré tout. Voilà, et ça je crois que c'est vraiment le dernier mot de Zola en matière de morale, ou plus exactement c'est ce qu'on pourrait appeler une éthique de la vie dans le livre. Je parle d'une éthique vitaliste à ce sujet-là. C'est-à-dire, pourquoi aimer la vie? Non pas parce qu'elle est aimable. La vie n'est pas aimable, et de ce point de vue-là, Zola retrouve une caractérisation de la vie comme souffrance qui lui provient de Schopenhauer, qu'on trouvait chez un Nietzsche exactement.
Qu'il a lu d'ailleurs, on apprend en vous lisant.
Dont il parle un petit peu, effectivement, oui. Nietzsche et Zola se renvoyaient l'un à l'autre le reproche d'être des décadents. Ils s'étaient suffisamment lus l'un l'autre pour pouvoir formuler cette invective l'un à l'égard de l'autre. Enfin, pour Nietzsche comme pour Zola, la vie n'est pas aimable en soi et cependant il faut l'aimer. C'est une attitude qui est très juste, hein, et dont on peut se demander encore une fois aujourd'hui quelles seraient les répercussions, parce que aimer la vie non pas pour ce qu'elle a d'aimable, ça veut dire bien non pas fuir la vie, hein, il ne s'agit pas de renoncer à la vie, il faut bien vivre la vie, mais il ne faut pas non plus en accepter tout. Et une des ambiguïtés aujourd'hui des discours qui s'appuient sur une philosophie forte et déclarée de la vie, ça serait de tomber dans ce qu'on appelle aux États-Unis par exemple l'option pro-life ou la doctrine pro-life, c'est-à-dire tout accepter de la vie et considérer que la vie est intouchable, ne doit pas être touchée depuis la conception jusqu'à la mort naturelle. Ce n'est absolument pas du tout cette option-là que l'on trouve chez Zola.
De toute façon, il le dit clairement dans le texte que j'ai lu, lui, il n'aura pas de principe que des
exactement.
Lois.
Exactement. Aucune acceptation inconditionnelle de ce qu'est la vie, parce que la vie n'est pas aimable en soi. Et ce n'est pas pour autant qu'il faut la fuir, ce n'est pas pour autant qu'il faut la haïr, il faut l'aimer quand même, mais cependant, ce n'est pas pour ses caractères propres. Il y a ici véritablement un acte de décision, une position d'option philosophique et existentielle à l'égard de la vie. Et je vous le disais, si ici on n'a pas une philosophie, alors je me demande bien ce que c'est.
Mais pourquoi faut-il aimer la vie? D'où vient cette injonction chez Zola?
Cette injonction provient, alors oui, pour me pousser dans
il ne croit ni au capitalisme, ni au christianisme, ni à aucune forme de transcendance, ni au principe. Et pourtant, il affirme, et ses personnages affirment souvent, cette nécessité d'aimer la vie.
Cette injonction, Bon, Zola ne pense pas par concept, hein, il pense par figure, par personnage, par métaphore. On a cette figure de l'ombre ou de la belle ombre, un personnage qui s'appelle Belle Ombre, justement, qui est le voisin de Pascal. C'est le double négatif, ou plutôt c'est la mauvaise figure de l'attitude que l'on peut prendre à l'égard de la vie. C'est cet homme qui ne s'est jamais marié, qui a très peu exercé de profession, qui n'a pas d'enfants, qui n'a pas d'amis, qui ne voit rien de la vie simplement par peur de la vie. Et donc l'opposition, ce n'est pas il faut aimer la vie à l'encontre de il faut haïr la vie, c'est plutôt il faut aimer la vie à l'encontre de ceux qui ont peur de la vie. Voilà, il faut aimer la vie parce qu'il ne faut pas en avoir peur. Hein, et c'est en termes de peur ou de crainte à l'égard de la vie que Zola raisonne ici. Il y a ceux qui fuient la vie par peur de la vie, par peur des engagements, des implications, des responsabilités. Et puis il y a ceux qui, se jettent dans la mêlée et puis vivent quand même et aiment la vie malgré tout.
C'est-à-dire travail pour
c'est
Zola.
À travail.
Les deux sont quasiment synonymes. Aimer la vie, c'est travailler. Ouais. Ceux qui ne travaillent pas, ceux qui sont qui font la vache, oui, comme il fait voilà. Dire à Gervaise oui. Dans l'Assommoir, eh bien, ce sont ceux qui finalement non seulement sont malheureux et perdent la vie.
Et alors attention, parce que justement, on parlait tout à l'heure des ambiguïtés du concept de vie. Voici les ambiguïtés du concept de travail. On peut
voilà.
En parler à présent. Ça n'est pas de n'importe quel type de travail qu'il s'agit. Il n'y a pas d'injonction chez Zola à travailler. Zola n'est pas celui pour qui il y a une valeur travail, hein, pour qui il vaut mieux exercer n'importe quel travail pour obtenir une quelconque dignité, je ne sais quelle dignité, plutôt que de ne pas travailler. Si le travail a une signification vitale, elle est toute différente.
Le travail est la vie elle-même. La vie est un continuel travail des forces chimiques et mécaniques. Depuis le premier atome qui s'est mis en branle pour s'unir aux atomes voisins, la grande besogne créatrice n'a point cessé. Et cette création qui continuera toujours, est comme la tâche même de l'éternité, l'œuvre universelle à laquelle nous venons tous apporter notre pierre. L'univers n'est-il pas un immense atelier où l'on ne chôme jamais, où les infiniment petits font chaque jour un labeur géant, où la matière agit, fabrique, enfante sans relâche, depuis les simples ferments jusqu'aux créatures les plus parfaites. Les champs qui se couvrent de moissons travaillent, les forêts dans leurs poussées lentes travaillent, les fleuves ruisselant le long des vallées travaillent, les mers roulant leurs flots d'un continent à un autre travaillent, les mondes emportés par le rythme de la gravitation au travers de l'infini travaillent. Il n'est pas un être, pas une chose qui puisse s'immobiliser dans l'oisiveté. Tout se trouve entraîné, mis à l'ouvrage, forcé de faire sa part de l'œuvre commune. Quiconque ne travaille pas disparaît par la même, et rejeté comme inutile et gênant, doit céder la place aux travailleurs nécessaires, indispensables. Telle est l'unique loi de la vie, qui n'est en somme que la matière en travail, une force en perpétuelle activité, le dieu de toutes les religions, pour l'œuvre finale du bonheur dont nous portons en nous l'impérieux besoin.
Aidez-nous à comprendre ce texte, Arnaud François, la tonalité lyrique. En plus, on le trouve dans le travail, dans les quatre évangiles, c'est ainsi que s'intitule ce texte, laisse penser que le travail deviendrait comme une religion. Que veut dire Zola ?
Oui, c'est par antiphrase, ou en tout cas par contestation de ce qu'il y a pu y avoir de chrétiens dans les anciens évangiles, que Zola donne ce titre collectif à ses quatre derniers romans. Il faut entendre évangile un petit peu au sens où Nietzsche acceptait de présenter ainsi par les Zarathoustra comme un cinquième évangile. Dans le cas de Nietzsche, on voit bien qu'il ne s'agissait pas d'un appendice à ce qui avait été écrit par les apôtres. Bon, ben, il faut comprendre la même chose avec Zola. Il ne s'agit pas de prolonger la religion ou de fonder une nouvelle religion. Il s'agit de penser après la religion. Ce texte nous dit beaucoup de choses. Alors, vous dites, est-ce que vous pouvez nous aider à le comprendre ? Moi-même, j'avoue que j'en comprends pas tout. C'est un des grands textes de Zola sur le travail, les plus développés, les plus théoriques. Bon, il y a des formules très ambiguës quand même. Quiconque ne travaille pas disparaît par là même. Celui-là doit céder la place. C'est le seul passage où Zola s'exprime de cette façon normative, impérative. Et j'avoue que je parviens pas à rendre compte exactement de la tonalité impérative, normative de cette phrase. Doit céder la place. Bon, cède la place par là même. Je crois que c'est plutôt ce qu'il veut dire. Mais même quand
c'est vrai que doit laisser la place à une tonalité morale.
Voilà, c'est une tonalité morale et qui n'est pas du tout en consonance avec les autres déclarations de Zola sur le travail, avec le traitement qu'il offre pour le travail ouvrier dans Germinal et a fortiori dans Travail. Alors, ce qu'on peut dire sur ce texte, c'est qu'il reprend des grandes visions empruntées aux philosophies de la nature allemande du 19e siècle. Cette idée d'une volonté, d'une force à l'œuvre partout dans la nature, qu'on trouve là encore chez Schopenhauer, chez Schelling, mais également dans plusieurs philosophies matérialistes allemandes de la fin du 19e siècle. D'autre part, c'est aussi la thermodynamique qui utilisait un concept de travail. C'est le cycle de Carnot qui nous dit par exemple que pour faire avancer une locomotive, eh bien, vous utilisez de la chaleur qui se transforme en travail, hein, ce que les physiciens appellent travail, et le travail lui-même redevient de la chaleur, mais avec une déperdition de travail à chaque fois qu'est effectué le cycle. Donc des concepts physiques comme ça permettent de donner un sens un petit peu précis à travail quand Zola l'étend à l'ensemble de la nature. Et c'est notamment cela qu'il veut dire quand il nous dit que la reproduction est travail, que la plante travaille lorsqu'elle se développe. Bon, voilà. Et d'ailleurs, je dis la reproduction et travail, ce que signifie salle de travail, c'est quelque chose qui échappe à peu de monde. Il s'agit de l'endroit où l'on enfante. Hein,
la femme, on parle du travail, enfant, d'ailleurs.
Voilà, oui. On parle de travail à ce sujet-là. Donc voilà une nébuleuse de concepts et d'images qui permettent de saisir un petit peu ce que Zola entend par travail. Mais il ne s'arrête pas là. Il y a véritablement une philosophie du travail qui est une philosophie d'ordre social, moral et politique.
Qu'on trouve dans quelles œuvres, par exemple ?
Alors, qu'on trouve dans quelles œuvres ? Qu'on trouve... Bon, le tournant est effectué avec le docteur Pascal. Le choix pour une ontologie de la vie s'accompagne du choix pour une axiologie du travail.
Et ça, qui est le dernier des Rougon-Macquart.
C'est le dernier des Rougon-Macquart.
Donc en fait, la pensée du travail vient à la fin des Rougon-Macquart.
Vient à la fin des Rougon-Macquart, et le docteur Pascal est véritablement le tournant, comment dire, la cheville, la clé de voûte entre les Rougon-Macquart et puis ce qui viendra ensuite. Et puis les grands textes sur le travail, eh bien, c'est d'une part Rome, hein, c'est l'un des romans des trois villes, puisqu'on a affaire à un personnage qui s'interroge sur la possibilité d'un socialisme chrétien. C'est un prêtre qui finira par se défroquer, socialisme chrétien. Zola s'apercevra que c'est une contradiction, que après le christianisme, il ne peut pas y avoir d'autres religions. Donc, il abandonnera le côté chrétien pour maintenir et affirmer le côté socialiste. Et c'est ce qui se fera effectivement dans le dernier cycle romanesque de Zola. Et c'est Travail, le deuxième des quatre évangiles, qui, voilà, roman éponyme. Hein, c'est là qu'on a la grande, la plus développée et illustrée théorisation du travail par Zola.
Mais il y a d'un côté l'affirmation que le travail, c'est la vie, il le dit, hein, telle est l'unique loi de la vie qui n'est en somme que la matière en travail, une force en perpétuelle activité. Donc ce qui est un constat fait par le savant qu'il se dit être, dans le texte que j'ai lu, hein, il se définit vraiment comme un savant, il a une approche scientifique de son travail justement. Et en même temps, il y a aussi une forme d'engagement. Il est difficile de lire même les ouvrages antérieurs, y compris les Rougon-Macquart, prenons Germinal par exemple, sans y entendre quand même une certaine dénonciation des conditions de travail des ouvriers.
Et ça, c'est précisément la difficulté qu'il faut comprendre. Hein, je vous parlais tout à l'heure du paradoxe du concept de vie chez Zola. Bah, c'est le paradoxe de son concept de travail. C'est le suivant, c'est comment décrire la réalité entière en termes de travail, hein, et affirmer que la vie elle-même est travail. Et puis en même temps, pouvoir proposer une théorie contestatrice des conditions misérables qui sont faites aujourd'hui au travail des ouvriers. Voilà. C'est cette difficulté-là que nous sommes appelés à résoudre et que Zola lui-même résout pour son compte dans Germinal et dans Travail.
Pour la simple raison qu'il se présente comme savant, mais qu'il est écrivain. C'est aussi amusant de voir que Zola se présente lui-même en se distinguant de Balzac comme ce scientifique qu'il aspire à être, alors qu'il suffit d'ouvrir n'importe quel de ses romans à n'importe quelle page pour voir que on a affaire à un écrivain au sens fort du terme. Il a la sensibilité littéraire qui lui permet de proposer ces romans-là, et c'est pas simplement quelqu'un. C'est plutôt un romancier qui a une aspiration scientifique, comme pour se donner certaine caution disons, savante à ses écrits, non ?
Bien sûr. Alors, il avait une érudition très, très sûre en matière de science, et non seulement en matière de science positive, mais également en matière de théorie politique. Cependant, comme vous le soulignez, c'était un écrivain. Il y a un style de Zola, il y a une manière d'écrire de Zola, il y a, j'y insistais tout à l'heure, un usage novateur de la métaphore chez Zola. Ce sont des choses qu'on a beaucoup oubliées, et ça contribue, je crois, au décrit relatif ou à l'abandon relatif de Zola par les études littéraires aujourd'hui. C'est que on est victime d'un préjugé suivant lequel, quand on s'intéresse à la manière d'écrire, au style, à l'écriture comme telle, il n'y a pas grand-chose à trouver chez Zola. En réalité, bon, je pense personnellement qu'il y a beaucoup de choses. C'est peut-être pas le même type d'innovation que chez Proust ou chez Claude Simon, mais voilà, il y a des innovations réelles, hein, qui demandent, sur le simple plan littéraire, peut-être être prises au sérieux à nouveau aujourd'hui et perpétuées.
Ce qui est la meilleure métaphore, sans doute, de ce qu'il appelle faire, enfin, ce que vous appelez, ce qu'il appelle faire la vie, c'est aussi donner vie à ses œuvres.
Oui. Alors, bah, si la vie est non seulement vie biologique et existence consciente, mais si la vie est aussi animation, au sens où on dit d'une rue qu'elle est vivante pour dire qu'elle est animée, alors oui, l'impératif premier de l'art poétique zolien, c'est celui-là, faire de la vie, comme faisait Michel-Ange lorsqu'il peignait dans la chapelle Sixtine, la fresque du Jugement dernier, par exemple.
Et redonner vie à des types de textes, enfin des types de créations qui sont peut-être un peu tombés dans l'oubli ou qui manqueraient de vitalité, c'est par exemple adapter un roman de Zola au cinéma. C'est ce qui avait été fait, souvenez-vous, en 1993 par Claude Berry, l'adaptation de Germinal.
Les amandes pleuvent. Je sais bien que nos voisins ne sont pas toujours impeccables. Mais enfin quand même, ça cache quelque chose de grave. Sûrement.
Ils ont mis une affiche à la caisse, mais j'ai pas su bien lire.
J'attends ma eux pour aller toucher la paye. On va bien voir.
Ça sent pas bon. On dirait qu'ils vont nous pousser à grève.
Ah, ça, c'est sûr. C'est facile à prévoir. Ils vont vous pousser à bout. La crise s'aggrave. Avec toutes ces usines qui ferment, on a de moins en moins besoin de charbon. La direction cherche à réduire les frais. Alors elle va rogner sur les salaires et ce sera aux ouvriers de se serrer la ceinture. Depuis 2 mois, là-haut, ils s'entassent sur le carreau des fosses. Une bonne grève les arrangerait plutôt. On épuise le stock. On met une partie des mineurs au chômage, et les autres, une fois domptés, on en profite pour moins les payer. Et puis ils sont au courant de la caisse de prévoyance. Ils ne disent rien, mais ça les dérange. Pendant la grève, elle se videra toute seule dans l'œuf avant qu'elle ne soit trop garnie.
La compagnie n'a aucun intérêt à la grève et les ouvriers non plus. Le mieux est de s'entendre. Combien t'as dans ta caisse?
3000 francs. La direction m'a fait appeler avant-hier. Très poliment, ils m'ont répété qu'ils n'empêcheraient pas les ouvriers de créer un fonds de réserve. Et j'ai bien senti qu'ils en voulaient le contrôle. De ce côté-là aussi, il faudra se battre.
Qu'est-ce que tu veux faire avec 3000 francs? T'auras pas 6 jours de pain. C'est une bêtise, cette grève.
Je te comprends pas. Hier, t'étais pour le feu, aujourd'hui, t'es contre la grève.
C'est trop tôt. Dans une grève, l'ouvrier souffre autant que le patron. Plichard m'a écrit. Il pense comme moi. Il faut profiter du climat pour entraîner en masse tous les mineurs de la région à l'association des travailleurs. Ils te suivent dans ta caisse de prévoyance. Mais combien d'entre eux ont adhéré à l'international? C'est le moment. Plus la situation sera dure, plus nous les déterminons à nous suivre. Et quand les travailleurs du monde entier auront compris, quand ils se tiendront tous la main, alors là on pourra agir.
C'est quand on entend les adaptations, soit à la radio, soit au cinéma, des romans de Zola, qu'on réalise que c'est, il fait de très bons dialogues. Et ça aurait été un excellent scénariste. Que c'est pour ça que ça passe très bien à l'antenne Art de François.
Il y a quelques tentatives dramatiques d'ailleurs de Zola, hein, d'écriture dramatique. Hein. Bon, même si c'est dans le roman qu'il s'est fait connaître.
Alors, à propos de Germinal, vous le décrivez comme étant vraiment le roman qui met en scène l'enfer sur Terre. L'adjectif qui revient le plus, en tout cas sur votre plume, c'est infernal.
La comparaison n'est pas en réalité une idée que j'aurais moi-même proposée ex nihilo. Elle est effectuée de façon très très récurrente par le narrateur lui-même de Germinal. Et c'est une comparaison qui était très fréquente dans la littérature de la fin du 19e siècle en tant qu'elle projetait de décrire la situation ouvrière. Et en particulier, on a de George Sand un roman qui entreprend lui-même de décrire la vie ouvrière en termes d'enfer. Premier élément, on peut comparer l'Assommoir et Germinal de ce point de vue-là. On a deux situations de l'enfer, je dirais même deux formes ou deux structures de l'enfer. Dans un cas, on a l'enfer conique, hein, l'enfer comme déchéance progressive de Gervaise.
Dans l'Assommoir.
Dans l'Assommoir, qui nous décrit en quelque sorte la situation de transcendance verticale de l'enfer chrétien. Et puis on a un enfer plat qui est celui de la plaine rase, celui de Germinal, mais qui n'en est pas moins un enfer qui est un enfer paganisé, un enfer dans l'univers duquel se retrouvent à peu près toutes les figures inquiétantes de la mythologie grecque et romaine, puisqu'on y rencontre des faunes, des ménades, des furies. Voilà la description très très inquiétante, très angoissante évidemment que Zola donne de cette réalité. Puis c'est le roman du tournant politique zolien. On a souvent reproché, même à l'époque, hein, les socialistes reprochaient à l'Assommoir d'avoir consisté dans une satire anti-ouvriériste de la paresse et du mauvais parler ouvrier. Dans Germinal, Zola prend cette fois véritablement fait et cause pour les ouvriers eux-mêmes. Et alors c'est pour dégager quatre articles, on peut terminer par là si vous voulez, quatre articles de ce que pourrait être une proposition politique de Zola qui nous conduisent directement à des enjeux qui sont absolument contemporains, puisque quels sont les quatre articles qui se dégagent de Germinal en termes de propositions politiques? D'une part, une révision des conditions de travail des ouvriers. Deuxièmement, une réflexion sur la question du temps du travail. Zola milite beaucoup pour une réduction du temps de travail. Troisièmement, et il en était question dans l'extrait que vous donniez, la constitution de caisses de retraite et de secours. Je dis ça à une époque où on se demande, par exemple, si on va maintenir un système de retraite où c'est une génération qui paye par une autre, ou si on va passer une retraite à points, où c'est l'individu qui économise au fur et à mesure de sa propre existence ce qui lui servira à vivre quand il sera plus âgé. Et puis quatrièmement, la question du salariat. Zola avait lu Marx, et même s'il ne l'avait pas lu d'une façon extrêmement approfondie, il avait surtout lu Fourier, mais il avait lu Marx et il connaissait la critique marxienne du salariat, il la reprend. C'est une question pour aujourd'hui, c'est un point d'interrogation pour aujourd'hui. Est-ce que celui qui adopte le point de vue des travailleurs dans les questions qui sont relatives au travail et à l'emploi, est-ce que celui-là doit défendre ou critiquer le salariat? Zola critiquait fortement après Marx et Fourier le salariat. Point d'interrogation pour aujourd'hui, est-ce que le salariat au contraire n'est pas une des dernières défenses que l'on puisse conserver contre la fluidification absolue des conditions de travail? Voilà.
Comme quoi lui se présente comme celui qui mène des expériences à travers ses romans, qui constitue un milieu avec cette famille des Rougon-Macquart et voit ce qui s'y passe, comme un biologiste pourrait assister à un développement de cellules, mais en fait les engagements qu'il a montrent qu'il est beaucoup plus humaniste, enfin il est tout aussi humaniste que matérialiste.
Il le devient de plus en plus. Oui, c'est il y a véritablement les deux, hein. Il faut absolument concilier ces deux aspects. Il faut absolument concilier par exemple le J'accuse humaniste de 1898 avec le travail fécondité très matérialiste que Zola rédigeait d'une façon contemporaine. Exactement. Ce qui opprime l'humanité, c'est les croyances fantaisistes. C'est pourquoi on peut être à la fois matérialiste et humaniste.
Le roman de Zola que vous conseillez de lire en premier, il a après l'émission, on se dit tiens...
Germinal.
Germinal, le plus connu. Et
le meilleur.
Et le meilleur. Très bien. Merci Arnaud-François.
Merci à vous.
D'être venu nous parler de la philosophie d'Émile Zola, Faire de la vie. C'est le titre de votre livre aux éditions Hermann. Lisez-le, chers auditeurs, vous aurez envie de vous jeter sur les livres d'Émile Zola, ce qui est toujours une bonne chose.
Si le travail vous excède, si votre ardeur devient tiède, gaiement allez-y d'un petit air. Quand votre esprit est morose, chantez, fait voir tout en rose, car la musique adoucit les nerfs.
À la tâche, quand ça fait plus votre emprunt, reprenez courage en attaquant ce refrain.
Sifflez en travaillant, c'est un bon stimulant qui vous rend le cœur plus vaillant.
Sifflez un air joyeux, vous vous sentirez mieux, vous serez bien plus courageux.
Suivez ce remède excellent.
Dites-elle, en travaillant.
Pour vivre heureux, toujours content, sifflez en travaillant.
C'est France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver, comme tous les jours, le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Vous aussi vous sifflez en travaillant, non?
Complètement, j'adore. Ouais.
Enfin, au bureau, pas devant le micro, parce que c'est plus compliqué de parler et de siffler en même temps.
C'est plus compliqué.
Votre actualité aujourd'hui, votre point de départ pour nous livrer vos réflexions philosophiques, c'est une actualité étrange, à nous expliquer, c'est la couleur noire.
Oui, dimanche 7 janvier avaient lieu les Golden Globes, qui chaque année récompensent, je le rappelle, des productions télévisuelles et cinématographiques aux États-Unis. Alors, évidemment, il fallait marquer le coup de cette nouvelle ère de l'industrie hollywoodienne, débarrassée du producteur Harvey Weinstein. Et pour cela, et en solidarité avec deux mouvements féministes, MeToo et Time's Up, on a pu voir presque tous les invités de cette cérémonie habillés donc en noir. Alors l'idée n'est pas de revenir aujourd'hui sur le féminisme, j'en ai parlé hier, mais de cette manière employée pour s'exprimer et utiliser comme moyen de résistance et de lutte le vêtement. Alors si la méthode n'est pas nouvelle, la question se pose quand même, en quoi le vêtement, de sa forme à sa couleur, peut-il être plus qu'une parure et donc plus qu'une parade, de la poudre aux yeux, qui plus est dans un événement aussi paillette ?
I could not spot a celebrity not wearing black tonight, standing strong with victims of sexual abuse here helping women. But what many celebrities pointed out was that tonight did not have a somber note. It was all about celebrating a better future for those who needed help.
I think that we feel like for the first time, change is possible and that we all believe standing here tonight that we can hand our children a different world.
Like, yeah. This is a win for us. We're standing in solidarity and there's something to celebrate about that. And so yeah. I think it'll be celebratory and it'll be fun just like always.
Si l'idée n'est donc pas de revenir sur le féminisme en particulier, elle n'est pas non plus ici de se demander en quoi une philosophie du vêtement est nécessaire, est essentielle. On y est, et quand on en fait une, eh bien on trouve deux voies possibles. Soit on dit que le vêtement est plus profond qu'il n'y paraît, jouant sur le paradoxe de la surface et de l'apparence, soit on revendique la légèreté et la frivolité des habits dans ce monde de brutes, prenant le parti du superflu face à tous ceux qui le critiquent. Autrement dit, et en liant ces deux positions, on va même jusqu'à dire qu'il y a une profondeur donc du superflu. Alors, que s'est-il passé ici? Que s'est-il passé avec toutes ces femmes et hommes vêtus de noir? Que se passe-t-il quand la cause se veut sérieuse et profonde, mais que le moment ne doit pas l'être, qu'il s'agit de se réunir, de se divertir ensemble et de se célébrer? Et bien, sur ce point, le vêtement semble être le moyen parfait, le moyen adéquat à un tel écart, jouant sur le sérieux du noir, la sobriété d'une couleur portée par toutes et tous, et la frivolité d'une coupe, la légèreté d'une étoffe, le glamour d'une telle soirée. Et d'ailleurs, la journaliste le dit, tout le monde porte du noir, mais l'ambiance n'est pas pour autant à la morosité, mais à la fête. Si on tente alors, comme le faisait Roland Barthes dans son système de la mode, de la lire comme on lit de la littérature, si on tente de décrypter ce que disent ces vêtements noirs en les inscrivant dans un ensemble plus large de signes, ce que dit le noir par rapport à d'autres couleurs, sérieux par exemple par rapport au rose bonbon, ou ce qu'il exprime selon les discours de la mode qui en font une couleur classe, sobre et élégante, eh bien on peut dire que ce noir tranche, qu'il frappe mais sans douleur, qu'il refroidit mais ne glace rien.
Nous voyons d'abord apparaître dans un manteau somptueux. Je crois que Cocteau l'avait défini un manteau...
d'une suprême élégance.
De Balenciaga.
Manteau noir.
La mort.
Et la robe noire, une robe fourreau, extrêmement sobre, en cloqué, je crois, un tissu cloqué noir.
Et porté.
Porté par Christiane Barry, qui interprète le rôle de la mort.
À côté de cette apparition toute noire, une apparition très rose, très fraîche...
Oui, qui est Eurydice, portée par Eurydice, Colette des Cèdres, qui est une robe de percale rose avec des motifs blancs incrustés.
Vous êtes devenu très compétent en matière de mode, hein, vous faites des descriptions merveilleuses.
Description merveilleuse, plus que la coupe, c'est bien la couleur qui est ici en jeu donc dans ces Golden Globes, le noir, et l'on doit à Balenciaga d'avoir dévoilé les nuances de cette couleur qui fait bloc, tout comme l'on doit à Michel Pastoureau d'en avoir justement fait une couleur, ou à Griselli d'Israël de l'avoir dit. Mais ce qui est intéressant avec le port de ces vêtements noirs ce dimanche, c'est justement qu'ils ne sont pas portés pour leurs nuances, mais pour faire bloc, pour faire écran comme une protection ou une résistance. Ces vêtements ne sont pas portés par contraste avec d'autres couleurs, le blanc virginal, le rouge sanglant, le rose bonbon, etc. ou avec l'ambiance frivole d'une telle soirée, mais par pur contraste. Et ils sont portés par toutes et tous uniformément, comme un uniforme justement. À l'inverse de Barthes qui voulait dépasser l'idée que le vêtement n'est qu'une parure ou une protection, on peut donc se demander si on n'y est pas revenu dimanche. Car de quoi un vêtement ou une couleur pourrait-il en fait être le langage si ce n'est de lui-même? Certains diront à propos du noir qu'il pourrait être le langage du deuil, de la mort, comme on l'a entendu dans cette archive avec cette description d'une robe noire adorée par Cocteau et utilisée pour son Orphée. On pourrait aussi ajouter de l'enfer dans l'imaginaire collectif. On pourrait aussi penser à Peau noire, masque blanc de France Fanon et dire que le noir révèle le racisme, la discrimination, ce que l'on remarque sans pour autant ne jamais vraiment le regarder. Et c'est en fait moins un langage qu'une image. Le noir révèle ici plus qu'il n'exprime. C'est une uniformité qui se voit et qui se montre désormais un uniforme qui unit et fait forme.
Écoutez, je porte un pull noir, mais j'ai pas du tout été invité aux Golden Globes, en tout cas, donc ça suffit pas.
Peut-être pour l'année prochaine.
L'an prochain, ils passeront au blanc et j'aurai rien à voir.
Non, merci, c'est une manière d'être solidaire de loin.
Merci de nous avoir fait écouter Cocteau. C'était Cocteau?
Alors non, c'était une archive qui décrivait les costumes portés dans Orphée par Cocteau, et donc une robe dessinée par Balenciaga. Je pourrais mettre en ligne la source, les références de cette archive.
Merci pour cette découverte. Effectivement, pour vous réécouter, rendez-vous en ligne sur le site du journal de la philo. Et j'en profite pour vous donner rendez-vous demain, chers auditeurs, à la Sorbonne, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, où aura lieu le premier forum organisé par France Culture avec plusieurs producteurs de la chaîne. Pour assister à l'enregistrement de l'émission des Chemins de la philosophie, rendez-vous à 11h30. Le débat sera « L'animal est-il un homme comme les autres ?» Toute la journée porte autour de la question de l'animalité. Je recevrai Corinne Peluchon, Alain Prochian et Joyce Sormand pour débattre autour de cette question. À demain donc, j'espère vous y voir nombreux. Pour ceux qui ne seront pas présents, sachez que cette émission sera diffusée vendredi prochain sur cette antenne, évidemment.
Un grand merci à David Pargamin qui a préparé cette émission, ainsi que Claire Perryman-Holt, Marianne Chassor, Louis Servet, Géraldine Mosna-Savoy, Thomas Beau et Olivier Bétard qui réalisent cette semaine, Nicolas Delmas qui est à la prise de son, Chantal Brunner, Georges Claes qui était à la lecture des textes. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle semaine, après Sartre, L'être et le néant cette semaine, la semaine prochaine. Ce sera la chanson populaire, Claude François, David Bowie, l'injustice et le rap, et Julien Doré. Mais oui, ça, c'est le programme de la semaine prochaine. D'ici là, pour réécouter cette émission, ainsi que cette série sur l'être et le néant, rien de plus simple, rendez-vous sur le site de France Culture, à la page des chemins de la philosophie. Vous pourrez la réécouter en ligne ou bien la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et l'équipe des chemins vous donne également rendez-vous sur le compte Facebook et Twitter de l'émission, où nous attendons vos remarques et commentaires. Rendez-vous lundi à 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture et sifflez en travaillant.